jusqu'à 18h. Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 17e étape du Tour de France qui vient donc de rendre son verdict. Chris Froome est bien le maître de ce Tour de France, puisque le Britannique de la formation Sky a remporté sa 3e étape sur les routes du Tour. 3e étape et 2e contre la montre. Il s'impose ici avec 9 secondes d'avance sur Alberto Contador, l'Espagnol de la formation Saxo qui a tout tenté aujourd'hui mais qui n'a pas réussi à vaincre Christopher Froome. Une nouvelle fois, Contador battu. Lucho, on l'a vu dépité tout à l'heure, Alberto Contador, il pensait à la fois le plus dur, mais Chris Froome a joué plus malin, il a changé de vélo, il a sacrifié quelques secondes mais il les a rattrapés ces quelques secondes.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que oui, il y a de quoi être dépité quand on est devant en tête au classement de l'étape pour Contador et de voir Chris Froome. Pourtant, dans la dernière descente, Chris Froome avait été désavantagé puisqu'elle était légèrement humide par rapport au passage de Contador, mais il n'a pas perdu de temps et quand même, il avait quand même 11 secondes de retard au dernier pointage et il a repris énormément de temps sur Contador. Ça veut dire que Froome est quand même beaucoup plus puissant sur les portions plates et descendantes et donc il a gagné donc ce contre-la-montre. À noter la très très belle performance de Quintana qui remonte au classement général à la 5e place, qui peut être un danger pour Contador et pour Kreuziger pour le classement général, pour le podium. C'est pas terminé, le tour n'est pas terminé pour la 2e et 3e place, ça va être indécis. 3 étapes de montagne encore dans les Alpes, franchement il va y avoir du suspense et ça va être attrayant.
Oui, parce qu'il y a moins de 20 secondes d'écart entre le 2e et le 3e, mais
entre Contador et Kreuziger, ils sont dans la même équipe,
probablement
mais le danger viendra de Quintana.
Vont-ils harceler Chris Froome dans la montée de l'Alpe d'Huez, la double montée de l'Alpe d'Huez demain, mais effectivement Quintana qui a fait une très belle performance.
Il pointe à 2 minutes hein, Contador au classement général.
Alors on va donc vous donner le classement général complet avec Christopher Froome qui reste plus que jamais en jaune. Son nouveau dauphin se nomme Alberto Contador et il pointe avec un retard de 4 minutes 34 pour Alberto Contador. Roman Kreuziger, l'autre coéquipier, le coéquipier d'Alberto Contador, est 3e à 4 minutes 51. Bauke Mollema qui a donc été le grand perdant de la journée est 4e avec un retard de 6 minutes 23. Il a perdu énormément aujourd'hui, Bauke Mollema. Quintana, donc le Colombien de la formation Movistar est 5e avec 6 minutes 58 de retard. Joaquim Rodriguez remonte à la 6e place. Rodriguez qui a fait un très beau chrono, hein, Lucho, puisqu'il prend la 3e place à 10 secondes seulement de Chris Froome.
Il faudra compter sur Rodriguez dans les Alpes, hein, notamment dans l'Alpe d'Huez, où c'est un très très bon descendeur. Et il ne faut pas oublier que la descente de l'Alpe d'Huez entre les deux montées est hyper dangereuse, hyper technique, rien à voir avec la première montée d'aujourd'hui. Il peut se passer des choses, d'autant plus, si tu veux, Christophe, qu'ils annoncent beaucoup d'orages demain sur l'Alpe d'Huez. Alors attention, même si Chris Froome a un confort, un bon matelas par rapport à Contador, Kreuziger, Mollema, Quintana, il peut se passer tellement de choses. Et on a vu des coureurs par le passé perdre le Tour de France sur des chutes dans les descentes de col, partant pluvieux. Et on peut pas, tant que Paris n'est pas arrivé pour Froome, rien n'est gagné encore.
Voilà, et puis l'image qui restera, l'image de ce Tour de France probablement, c'est donc la chute tout à l'heure de Jean-Christophe Perrault dans la descente de ce chrono, la descente de ce contre-la-montre, la 2e. On rappelle que Jean-Christophe Perrault était parti tout à l'heure avec une clavicule fracturé, il a tout tenté pour limiter les dégâts, pour rester le premier Français au général. Malheureusement pour lui, eh bien une nouvelle chute et là toutes les illusions qui s'envolent avec en plus la douleur terrible pour Jean-Christophe Perrault. Les images sont vraiment vraiment frappantes.
Ça nous a fait penser aussi les débuts des années 80-82 avec Pascal Simon qui s'était cassé la clavicule, qui avait le maillot jaune à l'époque et qui a perdu le Tour de France sur une fracture de la clavicule. Et c'était malheureux à l'époque. Je me souviens, j'étais jeune, j'étais devant mon téléviseur, j'ai vu Pascal Simon arrêter. Et là, bien sûr, c'est pas la même situation pour Perrault parce qu'il n'était pas maillot jaune du Tour de France, mais 9e au classement général, premier Français. Maintenant, le premier Français, c'est Bardet, le petit jeune de 23 ans qui se pointe à la 20e place au classement général. Et voilà, alors les Français, là, cette année, c'est vraiment une petite catastrophe, quoi. Manque de malchance. Beaucoup de malchance, pardon. Voilà. Et c'est malheureux pour nous, les Français. On n'aura peut-être pas de victoire d'étape, pas de coureur dans les 10 premiers au classement général. Voilà, ça sera, il faudra attendre l'année prochaine pour voir peut-être les petits jeunes français pointer le bout de leur nez pour le classement général.
Malgré tout, c'est vrai que Romain Bardet réalise une très belle performance, 20e du Tour de France. C'est sa première participation au jeune coureur de la formation AG2R. Et il a montré de belles choses, même si aujourd'hui, dans le contre-la-montre, il a été logiquement battu. Mais 20e, Lucho, c'est bien quand même pour Romain Bardet, non?
C'est bien pour Romain Bardet, d'autant plus qu'il va prendre de la maturité, de l'expérience. Et on le verra différemment. différemment dans son deuxième Tour de France, d'autant plus que je pense que Romain Bardet a les capacités physiques et surtout intellectuelles de pouvoir tenir la pression, d'avoir la pression des médias et tout, parce que c'est vrai qu'on va demander beaucoup pour lui l'année prochaine. On va attendre avec impatience le Tour 2014 pour voir peut-être un Romain Bardet rentrer dans le top 10, voire peut-être, pourquoi pas, dans le top 5. On sait jamais.
Cyril Guimard, évidemment la question que tout le monde se pose, c'est fallait-il laisser partir Jean-Christophe Perrault tout à l'heure? On sait qu'il a été victime d'une fracture de la clavicule, il a souffert, il a tout tenté, mais une nouvelle fois il a chuté, et les images, on le disait il y a quelques instants, sont terribles pour lui, pour son directeur sportif, pour son manager. Aujourd'hui il y a beaucoup de questions, évidemment, hein.
Oui, c'est une question clé. Est-ce qu'on doit laisser partir un coureur qui est blessé, dont on a diagnostiqué une fracture de la clavicule? Est-ce qu'on doit le laisser partir? Ah, vous savez, c'est une question qui est très difficile, parce qu'il y a le coureur qui, lui, n'a pas envie d'arrêter, et le directeur sportif qui aurait peut-être envie de lui dire, bon, bah écoute, allez, on tire un trait, c'est fini, c'est pas la peine de prendre des risques. Et puis, il y a autre chose qui peut venir se greffer là-dessus, et bon, on va peut-être me dire encore que... C'est que quand on fait un show comme ça, c'est bon pour la télé, c'est bon pour les médias. C'est-à-dire que d'un seul coup, on victimise, et puis on devient, quelque part, on va devenir un héros parce qu'on court avec une fracture. Le problème, c'est que s'il n'était pas retombé, on aurait dit bravo, sauf que là, il retombe. Il retombe pourquoi? Parce qu'il a un bras qui est en train, au fil des kilomètres, de s'ankyloser, et ça, on connaît le problème. Et puis il rate un virage, il retombe sur son épaule avec peut-être des conséquences beaucoup plus graves que s'il était rentré à la maison. C'est un choix cornélien, et j'ai pas de jugement à porter. Je pose des questions auxquelles je réponds pas. Je sais que personnellement, sur un Tour d'Espagne, alors que Dominique Gagne était maillot jaune, il avait remporté le prologue, et au bout de 3 jours, il était maillot jaune, il y a eu une chute. Il voulait repartir, sauf qu'il savait pas trop bien dans quelle direction il voulait repartir. Et là, j'ai pris la décision et j'ai dit au médecin et aux ambulanciers, vous le mettez dans l'ambulance et vous l'emmenez à l'hôpital. Bon, j'ai pris la décision.
C'est au directeur sportif, au manager de prendre la décision.
Normalement, ça peut être le médecin de la course, puisque ouais. Là, c'était pendant une étape en ligne normale. Alors peut-être que le médecin aurait pu dire, il ne repart pas. Et là, quel que soit le manager, vous n'allez pas contre l'avis médical, ça n'existe pas. Mais là, le médecin ne disait rien, et moi j'avais conscience qu'il avait une forme d'omnibulation, de perte de conscience, même si elle était légère et passagère. À partir de ce moment-là, on ne le fait pas repartir. C'est pas grave de le mettre dans l'ambulance.
Pierre-Yves Leroux est derrière la ligne d'arrivée avec un ancien grand champion du Tour de France, Pierre-Yves.
Oui, mais j'ai dit à Yop que c'était Cyril qui parlait, alors que ça allait peut-être durer un peu de temps. Yop Zotmel qui est avec nous. Yop, bonjour. Quel regard vous portez sur cette étape aujourd'hui? C'était très particulier, il y a eu du suspense.
Oui, justement, il y a du suspense. Bon, c'est les Costaud qui sont devant, le classement il est devant. Bon, Froome est encore montré un petit peu plus fort que Contador aujourd'hui, même avec un descente qui n'était pas en son faveur. C'était plutôt Contador qui a un petit avantage, mais Froome est quand même montré qu'il a bien roulé, il est bien fini, il gagne avec 9 secondes d'avance. Il monte bien dans cette Tour de France, celui qui est au-dessus de l'eau.
Il vous impressionne depuis le début?
Moi, je crois qu'il a impressionné beaucoup de monde. Il a déjà montré l'année dernière dans le Tour avec Wiggins qui était prêt à faire quelque chose. Bon, cette année, il montre qu'il est là. Moi, je ne me surprends pas. Et je savais qu'il était dans le classement, mais les cas qu'il fait contre Contador et contre les autres, Kreuzinger, Mollema, tout ça, c'est vraiment fort.
Yop, demain, il y a une étape avec une première montée de l'Alpe d'Huez, la descente, une seconde montée de l'Alpe d'Huez. Ça vous aurait plu?
Moi, j'aime bien l'Alpe d'Huez, j'aime bien arriver au sommet. Bon, ça m'a plu, ouais. Surtout la descente est un peu technique aussi. Moi, je tape comme ça, que j'aime bien.
Il y aurait eu beaucoup de supporters.
Oui, de toute façon, il y en a quand même. Il y en a tout le temps dans l'Alpe d'Huez.
La montagne des Hollandais.
La montagne qui est descendue là-bas. Et, c'est quoi, il n'y a pas beaucoup de place pour les autres caravans, parce que pour descendre tôt. Hein.
Merci beaucoup. Il y a Zotmel qui est derrière le protocole avec Yann Janssen également. Je peux vous dire que les discussions vont bon train avec Bernard Hinault, Bernard Thévenet également. Ça discute beaucoup là. Il y a des souvenirs qui sont évoqués.
Il y a du beau monde. Hein. Il y a du beau au monde. On sent qu'on entre dans les étapes capitales. Cyril, ils sont tous là, tous les anciens vainqueurs. On a eu Greg LeMond tout à l'heure, Jobs Zoutemelk, Yann Janssen qui est là aussi. Ils sont tous là, ils vont tous être là dimanche de toute façon, tous les grands noms de ce Tour de France.
Bien, il y a au moins deux raisons pour être là. D'abord parce que c'est la 100e édition, et puis d'autre part, l'organisation a tout simplement prévu d'inviter tous les coureurs qui ont participé au Tour de France, ou du moins terminé le Tour de France, samedi, je crois que c'est à la Cipale. J'en fais partie, mais je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller, parce que apparemment je suis sur RMC, et le dimanche, enfin non, on sera à Annecy pour rentrer,
sur
Paris.
Oui, on sera sur la route.
Voilà, donc on n'aura pas l'occasion d'y aller, mais bon, tous ces anciens vainqueurs du Tour de France, tous ces anciens champions, tous ceux qui ont fait l'histoire du Tour de France, eh bien la plupart, on va dire 90%, seront présents samedi et dimanche sur le Tour, et je crois que c'est un beau clin d'œil.
Ouais, évidemment, de voir tous ces grands noms. Tout à l'heure, assez ému de voir Greg LeMond, évidemment, triple vainqueur du Tour, Jobs Zoutemelk. Alors là, Fred, ça nous rappelle encore plus. Toi, t'étais un peu plus petit, mais Jobs Zoutemelk, moi, il a rythmé mes après-midi de mois de juillet lorsque j'étais petit, hein, parce qu'il en a fait un paquet de Tour de France.
Et il en a des places d'honneur avant cette fameuse
victoire.
C'était
le Polydor hollandais avant de remporter un Tour, finalement. Hein.
Exactement. 5 fois deuxième, si mes souvenirs sont bons, avant de décrocher son premier et seul succès sur le Tour de France à près de 40 ans, en 1980. Jobs Zoutemelk, effectivement. Bah,
le problème pour Zoutemelk, c'est qu'il est tombé sur Merckx puis Hinault, quoi. C'était un peu ça, le souci. Hein.
Mais il a réussi à décrocher sa victoire. Ouais. Quel Graal, après tant d'années, de nombreuses places dans le top 10, donc 5 places de deuxième, aller décrocher ça et pouvoir partir la tête haute et presque mourir heureux. Et il n'en est pas là, et bien évidemment, ce bon vieux Jop. Mais Jobs Zoutemelk, effectivement, fait partie du gratin, tout comme Christopher Froome membre de ce cercle, a priori, à coup sûr, ce soir, puisqu'on rappelle la victoire ici à Chorges, au terme du deuxième et dernier contre-la-montre de ce 100e Tour de France. Victoire du Britannique Christopher Froome, évidemment, qui remporte là son premier contre-la-montre sur le Tour de France.
Oui, c'est vrai, c'est Tony Martin qui avait remporté le premier.
Sa troisième étape sur le Tour après ses succès à Axe 3 Domaines et au Mont Ventoux. Froome qui devance ici à Chorges pour 9 secondes. L'Espagnol Alberto Contador qui a cru jusqu'au bout, 10 secondes derrière Froome. On trouve Joachim Rodriguez, Kreuziger est quatrième, Alejandro Valverde. Le grand battu du jour s'appelle Bauke Mollema. Il lâche 2 minutes 09 à Christopher Froome aujourd'hui. Laurens Stendam, son équipier hollandais, est à 2,29. Les deux Hollandais qui perdent des places au général, qui sont les grands battus du jour à la veille de la montagne hollandaise, l'Alpe d'Huez à gravir deux fois. Au classement général, Mollema est désormais quatrième à 6,23 de Christopher Froome. Froome qui voit gravir à ses côtés sur les deuxième et troisième places du podium Alberto Contador à 4,34 et Roman Kreuziger à 4,51. On rappelle l'abandon, effectivement, aujourd'hui, autre temps fort du Tour, de Jean-Christophe Perrault qui s'était fracturé la clavicule lors de la reconnaissance du parcours ce matin, qui a pris le départ mais qui a chuté à une dizaine de kilomètres de l'arrivée et qui a abandonné la route du Tour.
Très bien, 17h42, on revient sur tous les événements de la journée dans quelques instants avec Cyril, avec Lucho, avec Fred, la suprématie de Chris Froome, la blessure et l'abandon de Jean-Christophe Perrault, la défaillance aujourd'hui de Mollema, la résurrection de Contador, mais résurrection insuffisante puisque Contador est une nouvelle fois battu par le maître de ce Tour de France, Chris Froome. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour au terme de cette 17e étape du Tour de France, 32 km contre la montre entre Embrun et Chorges, et une nouvelle fois, eh bien Chris Froome a frappé, troisième victoire d'étape sur les routes de cette 100e édition de la Grande Boucle pour le Britannique de la formation Sky, qui s'impose avec 9 secondes d'avance sur Alberto Contador, 10 secondes sur Rodriguez, 23 sur Kreuziger et 30 secondes sur Valverde. Christopher Froome, plus que jamais leader de ce Tour de France, puisque son nouveau dauphin se nomme Alberto Contador, Fred, et qu'il est désormais relégué à 4 minutes 34. Froome a une nouvelle fois marqué les esprits aujourd'hui, même si sa victoire est étriquée, mais 9 secondes, ça suffit pour Chris Froome, largement.
Et peu importe le chrono aujourd'hui, puisque Christopher Froome comptait déjà plus de 4 minutes d'avance au général ce matin. Ce qui comptait, c'était de mettre un coup de baguette sur les doigts et un coup de règle sur les doigts d'Alberto Contador, qui lui avait mené la guerre hier en direction de Gap, l'entraînant dans sa chute dans la côte de la Rochette. Contador qui qui a à nouveau mis la pression sur Froome en prenant un départ canon. C'était la guerre des égaux aujourd'hui, clairement. Christopher Froome qui devance Contador, Rodriguez, Kreuziger, Valverde, Quintana. Rappelons l'abandon de Jean-Christophe Perrault qui était premier du général, premier français du classement général, victime d'une fracture de la clavicule ce matin et qui a pris le départ mais qui a à nouveau chuté lors de ce contre-la-montre et qui a préféré finir le parcours dans la voiture de son directeur sportif. Au classement général, effectivement, Froome est plus que jamais maillot jaune. 4,34 d'avance sur Alberto Contador, 4,51 sur Kreuziger, 3e. Mollema rétrograde de la 2e à la 4e place du général, 5e Quintana, 6e Rodriguez, 7e Tendam. Le premier français, c'est le jeune Romain Bardet, 20e à plus de 28 minutes du général, du maillot jaune.
Les Français sont loin. Alors que nous rejoint dans ce camion quelqu'un dont toute la France se souvient, évidemment. Oui, il est avec nous, c'est Willy Voot. Bonjour Willy.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec vous un petit moment là, parce que je vois mon ancien poulain là, mon Lucho Leblanc là, et mon vieux Cyril. Hein?
Alors, salut Willy.
Donc ça me fait beaucoup plaisir.
Mais moi j'ai jamais été poulain, j'étais déjà un vieux cheval.
Ah non, mais presque. Mais je sais pas que tu te rappelles, Cyril. Excuse-moi, je te tutoie. Hein. Presque j'étais chez toi. Hein. Tu te rappelles, il y a en 83 c'était. Enfin, bref.
Willy Voot pour nos auditeurs, qui est l'ancien soigneur de l'équipe Festina notamment, l'homme par qui le scandale était arrivé en 98, arrêté à la frontière franco-belge alors que le Tour de France prenait son envol depuis Dublin en Irlande, et l'homme par qui tout a été déclenché. La Virenque-Mania s'est arrêtée, elle a repris quelques années plus tard, mais effectivement c'était une autre époque, ouais. Dit certains.
Il paraît que c'est à cause de moi qu'il y a tant de bordel maintenant.
Non, je rectifierai un petit peu. Ouais. Ce qui est arrivé à Willy, de toute façon, ça devait arriver.
Ouais, un jour ou l'autre.
Bah, c'était trop loin.
8 jours après, un mois après, ou 6 mois après, mais sûrement pas un an après.
Il était fiqué.
Je vais te dire, Cyril, ma femme, elle a été contente. Quand je me suis fait arrêter, parce que ça allait loin.
Ouais.
Ça allait loin, donc,
ça allait trop loin.
C'était trop stressant.
Pour un homme, c'était trop dur à vivre.
Non.
Le poids sur les épaules.
Moi, j'étais tellement con, si je peux dire comme ça, que tout le monde faisait confiance en moi, que je transportais des scies, c'est ça. Je prenais des notes à tout le monde. Et finalement, ça m'est tombé sur la tête. Donc, voilà. Ma femme, elle était contente.
Ouais. Willy, combien on est? 15 ans plus tard? Est-ce que vous restez.
16 ans.
16 ans plus tard.
Ouais.
Quand on parle de Willy, on parle toujours de cette histoire.
Ça me gonfle un peu, parce que toujours cette histoire. Et moi, parce que là, j'ai fait un peu.
Ça marque une vie.
J'interviens un peu dans une petite radio locale ici.
Et parce que vous êtes d'ici, hein.
Voilà, je suis d'ici.
Même donc, si vous n'avez pas l'accent de Gap. Hein.
Il est à Vennes, Willy. Ouais, et à tu continues de conduire des bus?
Non, depuis le 1er juillet, je suis à la retraite.
Bienvenue.
Enfin, c'est temps, j'ai 68 ans donc. Non, mais pour dire, je pouvais travailler un peu, enfin travailler pour une petite radio ici, mais oui, à une condition qu'on ne parle pas toujours
de
cette fameuse dopage. Donc voilà. Mais voilà.
Mais ça reste collé à vos chaussures, cette histoire. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est malheureux. Et il y en a beaucoup de gens qui me font la tête. Hein,
ah oui?
Qui me font la gueule.
Mais finalement, t'es une star?
Ouais, malgré tout.
Malgré moi.
Il en a fallu baver derrière cette histoire, cette incarcération, ces témoignages.
Ouais, c'est vrai, c'est très dur.
Il y a eu un livre aussi derrière.
Oui, Massacre à la chaîne.
Heureusement que j'ai eu ça, parce qu'autrement, je vends ma maison. Hein.
Uh-huh. Massacre à la chaîne, c'est le bouquin. Il en a sorti quelques autres un peu moins révélateurs.
C'est juste pour prendre de l'argent.
Voilà. Non, c'est vrai. Le livre où Willy Voot dit tout et se confie avec pas mal d'empathie aussi. Très touchant ce livre, ça s'appelle Massacre à la chaîne.
Merci pour la petite pub.
Mais je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Dedans, vous trouverez en cahier central les carnets de Willy avec toutes les inscriptions.
Mais c'était pas fait exprès, c'était pas pour dénoncer quoi que ce soit. C'était des carnets que je faisais, que le coureur y payait leur consommation, et c'était juste ça. Parce qu'ils avaient des valeurs. Hein. Quand je me suis fait arrêter, il y en a quelques coups de fil qui ont été donnés pour le récupérer. Hein.
Ouais. Et aujourd'hui, avec les coureurs, vous avez tout à l'heure parlé avec Laurent Brochard, avec les coureurs de l'équipe Festina.
Ça m'a fait plaisir.
Ouais, vous restez proche de ces coureurs.
Sauf avec un. sauf avec un, avec Virenque, il me fait la gueule. Je ne sais pas pourquoi, c'est quand même pour eux que j'ai pris le risque, c'est quand même à cause de ça, de toute cette saloperie que je suis arrivé à la prison.
C'était pas pour vous, hein, le PO, hein. Ça sert à rien quand on n'en fait pas d'efforts.
Mais voilà, c'est dommage, parce que là, comme Lucho, Brochard, tout le Bizet, j'ai vu hier, j'ai vu...
Non mais moi je suis resté un an en 94 avec Willy dans l'équipe Festina. Je sais comment Willy fonctionnait. Il avait énormément de cœur, il se levait la nuit s'il fallait pour ses coureurs. Il était toujours présent, quoi. Il était toujours présent, et c'est vrai que dans un article qui est paru sur moi là il y a quelques semaines, je disais que Willy Wood était un petit peu le dindon de la farce, quoi, dans l'histoire, et voilà, dans le système, et que Willy était un très grand professionnel au niveau des massages et au niveau de sa façon de concevoir le métier pour que les coureurs soient dans les meilleures conditions possibles après l'épreuve et au niveau de leur récupération.
Bah, écoute, Lucho, vous étiez mes gamins.
Ben oui.
Aimé, ouais, il est très très ému, Willy. Il est très très ému, un super bonhomme, évidemment, mais Luc.
Tu me fais chier, Lucho.
Il a fauté comme nous tous, attention.
Mais bien sûr qu'il ne faute pas dans la vie, mais voilà, mais il a fauté pour les autres, pour rendre service peut-être aussi, pas pour lui.
Au départ, Lucho, on ne sait pas qu'on est
hors la loi.
Ça fait partie de boulot.
Bien sûr.
Il a payé pour tout le milieu.
Exactement.
Voilà.
Merci Willy d'être venu dans ce camion.
Beaucoup.
Désolé de vous avoir fait monter les larmes aux yeux.
Mais c'est vrai. C'est l'émotion.
C'est ce con de Lucho.
C'est de Lucho, il fait pleurer tout le monde aussi. Non mais Lucho, enfin. Merci Willy, en tous les cas, on est obligé de conclure.
Parce qu'il est déjà
à quelle heure?
J'ai 17h50. Une maison aussi. Hein.
Eh oui, il faut rentrer à la maison. 17h54. Tiens, on va retrouver Fred Zermati, c'est l'heure du débrief des courses. Salut Fred.
Salut.
Bon alors, ça s'est bien passé pour toi?
Ouais, pas trop mal. Enfin, il y a quelques favoris qui se sont illustrés. Et puis quelques outsiders. La victoire pour le 11, Royal Géraldine dans le Quintet Plus. Une victoire ridicule de facilité devant le 3, Racer Prior. Le 13, Santos Durib, qui était le favori de l'épreuve. Le 16, Unabella Perrine, qui a tracé une très belle ligne droite. Il faudra s'en souvenir parce qu'elle n'était pas déférée des 4. Et puis le 4, Sydney Durib, qui conclut 5e. Ça nous donne pour cette arrivée un ordre de 23 985 euros. La tirelire n'est pas tombée à la Casa Click. Pas de changement. Toujours Eric Raffin devant Jean-Michel Bazir. Et comme la tirelire n'est pas tombée, demain, elle va être de 5 400 000 euros. On retourne du côté de Vichy pour galoper. Et pour nous aider à y voir plus clair dans cette épreuve, eh bien, je vais demander à Cédric de Génie Course ce qu'ils en pensent du côté, justement, de Génie. Salut Cédric.
Bonjour à tous. Bah, on voit bien le numéro 6, Latzad, un cheval qui a monté sa valeur en étant troisième d'un handicap similaire sur 1200 mètres. C'est un cheval qui est taillé pour les sprints, qui répète toutes ses courses. En plus, l'entraîneur Damien Vatrigan a remporté 2 courses durant le meeting de la grande semaine de Vichy. Donc l'écurie est en forme et je pense que Latzad peut remporter ce quintet plus.
Oui, ce sera son premier été et c'est sur 1000 mètres. La course est très très ouverte, donc n'hésitez pas à élargir les jeux. Et puis pour les bonnes infos, comme d'habitude, rmcsport.fr.
Merci Fred.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
17h56 sur RMC. Elle nous rejoint, Virginie Fulpin, comme tous les soirs, qui va prendre la main pendant une bonne heure et jusqu'à 21h. Salut Virginie.
Alors, on va continuer à parler de cyclisme. Bien sûr, Chris Froome, vainqueur. Contador, deuxième du contre-la-montre et maintenant du classement général. Et Jean-Christophe Perrault qui abandonne. Ce Tour de France, ce sera avec Cyril Guimard dans une demi-heure. Yannick Agnel nous dit tout. Julien Richard l'a rencontré. Le champion olympique de natation s'explique sur son choix de partir s'entraîner aux États-Unis et sur ses ambitions pour les mondiaux de Barcelone à la fin du mois. C'est quoi un tournoi du Grand Chelem en golf? Le British Open commence demain en Écosse. Grégory Bourdie est le seul Français à y participer. Il sera dans l'intégral sport avant 19h. Et puis il y aura bien sûr le journal des sports de Jean-Louis Tour. A tout de suite.